10 ans de foot.
Du foot, rien que du foot, sur Radio Foot.
Mon Dieu, 10 ans déjà.
Le temps passe vite.
Radio Foot International
sur RFI.
10 ans de Radio Foot.
C'est amazing, comme disent les Anglais.
Mais est-on vraiment sérieux quand on a 10 ans ?
J'ai 10 ans.
Le foot ne s'arrête jamais, Radio Foot non plus.
Bon anniversaire Radio Foot.
Génération Radio Foot International.
Déjà 10 ans que nous vivons la passion du foot à travers la radio mondiale.
Radio Foot,
c'est parti.
C'est parti.
Bonjour à tous et merci d'être au rendez-vous de Radio Foot International. Quelle joie d'entendre tous ces messages en ce 10e anniversaire. Nous parlerons foot bien sûr aujourd'hui avec la 3e soirée de Ligue des Champions et déjà des clubs en danger. L'OM, l'Olympique de Marseille, redressera-t-il la barre dans le stade des Dragons? Le FC Porto, pourtant champion sortant du Portugal, n'est pas vraiment fringant, alors que le trio inoffensif marseillais pourrait peut-être redevenir offensif. Éric Chorin sur le terrain portugais et lui, il est à l'offensive. Le Real Madrid, lui aussi en quête de victoire, il jouera sa survie pour se qualifier en 8e de finale. Et oui, le grand Real, mais face à l'Inter Milan de Romelu Lukaku, Ramos, Kroos, Benzema et Hazard devront se démener. Et puis aujourd'hui encore, nous fêterons donc nos 10 ans avec des messages toujours aussi et plus même touchants d'anonymes auditeurs, mais aussi de grandes voix de sportifs de RFI, de grandes stars aussi, de légendes, qui pour succéder au message de Sadio Mané. Eh bien, nous vous le découvrirez dans quelques secondes. Bonjour Nabil Djellit et Patrick Juillard.
Bonjour Annie, bonjour à tous.
Bon anniversaire.
Bonjour à toutes et à tous.
Voilà, on vous a invités ensemble parce que vous êtes les stars qui
Une décennie de débats.
Hein et de soirées aussi, parce
enfin,
que vous
pas
avez
de
bien
débat,
passé.
De haut surtout, moi, je trouve. Ouais. Merci en tout cas. Moi, ma première mission avec vous, Annie, je m'en souviens très bien, parce qu'on en profite comme c'est un devoir de mémoire. Moi, c'était la CAN 2012. J'avais vécu la CAN 2012, donc ça fait 8 ans pour moi.
C'est Franck Simon qui vous avait amené par la main.
Ouais, je me souviens très bien. Et puis, j'avais de la chance parce que cette CAN-là, elle était quand même exceptionnelle, parce que c'est la Zambie d'Hervé Renard. L'homme à la chemise blanche qui avait fini par la remporter. J'ai dû attendre 8 ans pour que l'Algérie la gagne, mais je l'ai vécu aussi sur RFI avec vous, Annie.
On en a parlé hier, justement. Bonjour, David Lortolari.
Bonjour, Annie, bonjour à tous.
On va y venir à la session, souvenir à la session aussi. Ah. Hommage. Un bonjour particulier, d'abord, pour commencer l'émission, à une auditrice fidèle, très fidèle, et qui nous félicite pour les 10 ans de l'émission. C'est Jeanne Mboma. Du Cameroun, alors vous avez deviné.
Célèbre là-bas.
célèbre là-bas, mais aussi maman d'un grand, d'un très grand footballeur, puisque c'est la maman de Patrick Mboma. Radio Foot, c'est parti, écoutez bien ce début feu d'artifice.
Et le coup d'envoi là qui vient d'être donné à Annie Gasnier, toutes ces années passées au Brésil. C'est parti pour David Finzel, Taguim Fatraoré. On se projette très vite vers l'avant. Ça va vite. Hein. Quel rythme ce Radio Foot tout de suite. L'émission qui fait l'unanimité déjà en tête du championnat Radio Foot des valeurs un collectif qui s'impose. Il y a du monde dans la surface de réparation. Habib Bey qui est monté. Shérif Guémour également. Patrick Juillard est là. Nabil Djellit. C'est Karine Galli qui va tirer le coup franc et Annie qui leur fait signe. Et oui, il faut y aller si on veut la gagner, cette Ligue des Champions. Rémy N'Golo qui s'élève. Il est trop court. LRFE, Maestro Salerno. La frappe d'Hervé Penaud, c'est contré. Et les auditeurs pour une deuxième chance. Tous ces millions d'auditeurs qui poussent. Et c'est le but. C'est le but. Radio Foot, c'est le but.
Ah, génial ici.
C'est très drôle, surtout quand il dit Rémy N'Golo trop court.
C'est pas son habitude au micro. Merci beaucoup Frédéric Chuteau pour cette mise en onde de ce match de Radio Foot. On avait d'ailleurs imaginé une fois un 11 type de Radio Foot. C'est toujours affiché dans le bureau
j'étais
d'ailleurs.
À la buvette.
Vous étiez à la buvette oui. Ah oui, mince alors. Alors, du talent, de l'imagination bien sûr. Des grandes voix, hier vous l'avez entendu, c'était Sadio Mané, le lion du Sénégal, le meilleur joueur africain l'an dernier, champion d'Angleterre, champion d'Europe, qui nous souhaitait bon anniversaire. Aujourd'hui un autre champion, une des légendes même du continent africain, c'est un éléphant, devinez.
C'est Didier Drogba, je voulais vous souhaiter un joyeux anniversaire à toute l'équipe de Radio Football International. Happy birthday, 10 ans, ça se célèbre, 10 ans de football, magnifique. Joyeux anniversaire.
Le grand Didier Drogba, 4 fois champion d'Angleterre sous le maillot des Blues, champion d'Europe aussi lui en 2012. Radio Foot est donc très honoré, on a de la chance, hein, beaucoup de chance d'être encouragé par de tels champions. Et vous l'êtes aussi, Nabil, vous faites partie de la famille Radio Foot.
Oui, bah carrément, bah, je vous rappelais mes souvenirs, moi je me souviens très bien... c'est grâce à vous que j'ai débuté aussi un peu la radio. C'était en 2012, je vous dis. Et cette CAN et ces souvenirs passés avec vous, pour moi, ça reste quelque chose d'inoubliable. Ces soirées aussi Ligue des Champions également qu'on a vécu ensemble. Cette richesse, cette diversité. Et comme je l'ai déjà dit, moi, j'ai la chance aussi de travailler pour d'autres médias. Et je trouve que, par exemple, sur le football étranger, je trouve que c'est en votre sein et au sein de l'équipe de Radio Foot que je trouve souvent la meilleure expertise. Voilà.
Patrick, des grandes voix du football africain qui nous soutiennent, c'est
voix,
encourageant.
Évidemment, c'est un plaisir. On les voit souvent à la CAN, hein, où on déplace le plus souvent quand on peut. Et c'est moi-même, je suis très touché parce que c'est par ce biais-là que j'ai vraiment mis le pied dans le football, puisque j'ai commencé en étant reporter sur le football africain. J'ai pas commencé en couvrant la Ligue 1 ou les championnats européens, mais vraiment par le biais
le prisme
de la CAN et des matchs internationaux d'équipes africaines. Et tous ces joueurs-là, je les avais côtoyés avant, et ça me fait plaisir que maintenant ils apportent leur approbation et leur hommage en quelque sorte à une émission à laquelle j'ai le privilège de participer, moi, depuis 6 ans, depuis septembre 2014. Donc ça fait presque un septennat déjà.
Presque. David Lortolari, vous aussi, vous êtes là depuis longtemps.
Oui, et en ayant commencé mon parcours à Saint-Étienne, il y a une imprégnation aussi à Saint-Étienne avec quelques joueurs venus du continent africain, et pas des moindres. Hein. L'un des plus récents, c'est Pascal Feindouno, mais il y avait eu Salif Keïta aussi avant. Donc cette empreinte-là, je l'ai aussi dans mon parcours. Et Didier Drogba, moi, me parle aussi parce que il a fait mal au FC Bayern en Coupe d'Europe, et on parle souvent de la Ligue des Champions.
Et vous nous parlez souvent de foot allemand.
Et ben voilà, et c'est pour ça qu'on a ce fond sonore derrière moi.
Voilà, exactement. Mais c'est vrai que vous couvrez particulièrement le football allemand, et c'est notre richesse ici à Radio Foot.
Ça aussi,
ça vous plaît comme hymne?
C'est-à-dire que ça parle à plusieurs générations, donc c'est bien de ce point de vue.
N'est-ce pas? Alors, on évoquait la Ligue des Champions, on y reviendra à nos souvenirs, et vous l'entendrez tout au long de l'émission, les auditeurs qui nous laissent des messages absolument touchants et merveilleux, et même si on peut pas tous les citer et les écouter, mais on essaye de faire un maximum. On évoquait la Ligue des Champions, et Didier Drogba justement nous permet de faire le lien, hein, lui qui fut, non seulement il a disputé cette compétition, mais il a été aussi marseillais, même si trop brièvement au goût de certains, et justement cette 3e soirée de Ligue des Champions, concerne l'OM. Les Marseillais sont au Portugal, dans la très belle ville de Porto, entre océan Atlantique et bord du fleuve Douro, aux confins donc ouest de l'Europe, du continent européen. Ce soir, dans le théoriquement bouillant Stade des Dragons, il y aura FC Porto OM, 3e match européen. Ça a tout d'un piège pour les Phocéens, on va y venir. Mais allons d'abord prendre la température dans cette cité balnéaire, baignée de soleil, je crois, Eric Chorin. Bonjour.
Bonjour, Annie.
Il y a du soleil aujourd'hui ?
Ouais, je vous le confirme, beaucoup de soleil. J'ai de la chance d'être à Porto. J'ai de la chance d'avoir pu manger des calamars grillés le long du Douro. Voilà, ça c'est quand même appréciable en ces temps difficiles, et alors que le Portugal s'apprête lui aussi à être reconfiné au moins partiellement à partir de demain.
Ah oui, donc c'est un peu la même ambiance que par ici. Ce soir, j'imagine que ça sera aussi confinement dans le stade.
Huis clos effectivement dans le stade. Il suffisait de parler avec le serveur qui nous a servi notre repas justement, qui lui déplorait de ne pas pouvoir aller au stade et qui s'étonnait que nous on puisse y aller puisqu'on lui a dit qu'on y allait. Bah oui, les journalistes ont le droit d'y aller pour travailler, mais effectivement le match va se dérouler à huis clos ce soir, un stade de 50 000 places quand même, le stade du Dragão, et donc ça va sonner creux, un peu comme en France. Hein.
Et oui, malheureusement. Alors Porto, c'est une belle ville portugaise, mais c'est aussi la ville, et c'est l'ironie, de l'entraîneur de Marseille. Il la connaît très bien, cette ville, André Villas-Boas, dès le tirage au sort d'ailleurs, et on avait bien vu son émotion à cette perspective de la double confrontation, car AVB, comme on le surnomme, est natif de Porto.
C'est la ville où moi je suis installé avec ma famille, j'ai passé toute ma jeunesse ici. lié évidemment à cette club de, du cœur et c'est attachant. C'est comme pour vous les Marseillais retourner à Marseille parce que Marseille à la fin a cette charisme que Porto a aussi et cette cette type de détachement que tu vois. Ce sont les choses viscérales qui sortent dans toi que tu es émotionnellement attaché.
Un attachement viscéral à sa ville de Porto. Il est bien aimé du côté de Porto, André Villas-Boas, Eric Chorin.
Oh là, il est très très aimé. En effet, bah évidemment, il y a l'aventure hein, qui l'a mené. C'est sa ville. Il avait parlé avec Bobby Robson, tout jeune, qui était alors entraîneur du club. Et c'est comme ça qu'il a ensuite pris langue avec le club et qu'il est devenu ensuite l'adjoint de José Mourinho hein, dans cette ville. Donc, lui, il a remporté la Ligue des Champions du coup avec José Mourinho en 2004. Et alors que dans son effectif, hein, il le disait aussi, très peu de joueurs ont l'expérience de cette Ligue des Champions, Mandanda, Payet, Thauvin, et encore pas pour la gagner, bien sûr, très attaché à cette ville, et au point qu'il il a quand même, il n'a dirigé qu'une saison, ce club du FC Porto, mais il a tout gagné cette année-là. Ils s'en souviennent encore de ce quadruplé, d'avoir gagné la Coupe, le Championnat, la Ligue Europa et la Super Coupe, ce qui lui a valu ensuite de partir en Angleterre, et notamment à Chelsea, puis à Tottenham. André Villas-Boas, qui est programmé en plus pour devenir peut-être le président du club, c'est son rêve même pas caché, il en a sans doute les moyens, il plaît ici. C'est pour vous dire, lors de cette conférence de presse dont on a entendu un extrait à l'instant, on a beaucoup parlé, on a beaucoup entendu parler des journalistes portugais de son avenir justement à Porto, parce qu'en face, celui de Sérgio Conceição est assez menacé hein, par le début de saison un peu calamiteux du club en championnat portugais, et du coup on lui demandait si la place se libérait. Est-ce que vous viendriez, André Villas-Boas? Bon, bien sûr, il a botté en touche. Mais on comprend bien ici qu'il y a un véritable attachement et qu'il va très probablement revenir un jour dans cette ville.
Ouais, ils veulent nous le piquer, quoi, André Villas-Boas.
Clairement.
Ils avaient déjà pris Sergio Conceição, parce que rappelons-le, quand il était parti à Porto, il venait pratiquement de s'engager et de re-signer du côté du FC Nantes. Ça avait créé un petit problème avec le président du club. Et là, André Villas-Boas, on se souvient qu'il avait été surnommé pour avoir travaillé avec Mourinho, on l'avait surnommé le Special Two. ça a peut-être été même un peu
vite.
Un poids lourd à porter, Nabil.
Oui, et puis ça a peut-être été un peu vite parce qu'il a eu un début de carrière qui a été assez fulgurant, mais il l'a mérité aussi parce qu'il a travaillé pour. On connaît son histoire avec Bobby Robson quand il a été l'attendre en bas de chez lui pour lui expliquer qu'il fallait qu'il mette tel joueur sur le terrain, et ensuite Bobby Robson lui a dit c'était des bonnes idées, t'as qu'à venir, et puis il s'est ensuite occupé de superviser les adversaires, à faire des fiches, etc.
La manière José Mourinho,
c'est une vraie histoire. C'est vrai que c'est un profil absolument atypique pour l'instant du côté,
mais il a eu moins de succès que le Special One.
Ouais, il a eu moins de succès que Mourinho, mais enfin Mourinho
est beaucoup plus jeune.
Il est beaucoup plus jeune, mais je ne crois pas que ça soit exactement ans. Les mêmes personnalités, le même type de fonctionnement. Alors c'est la même école, on va dire, d'entraîneur, peut-être au niveau des idées, c'est l'école portugaise. Il est très pragmatique également, André Villas-Boas, qui est capable de jouer au foot, mais il est aussi capable de fermer boutique, comme il le fait depuis qu'il est arrivé à l'Olympique de Marseille, parce que c'est pas un football spectaculaire, ni forcément flamboyant, mais il a remis un peu de fierté aux Marseillais. C'est tout bête, mais même si c'est pas du grand football, battre le Paris Saint-Germain cette saison, notamment au Parc des Princes, c'était la première fois que ça arrivait sous l'ère qatari. Il a réussi aussi à remettre le club en Ligue des Champions, c'est aussi une réussite. Et même si cette saison, ça devait être mitigé, globalement, sa séquence, elle sera plutôt positive dans l'esprit des supporters marseillais. Quant à Sergio Conceição, juste une petite anecdote. Et oui, il a signé à Porto, oui, il était à Nantes, mais il a failli venir au Paris Saint-Germain, puisque Antero Henrique, le directeur sportif, l'ancien directeur sportif du Paris Saint-Germain, l'avait également ciblé. C'était très réel, il y avait des contacts qui étaient très sérieux pour qu'il prenne le PSG.
Mm-hmm. Patrick, sur Villas-Boas, le portugais.
Oui, justement, je trouve que, alors effectivement, il y a pas mal de différences de caractère, de personnalité avec José Mourinho, mais il y a un point commun qui est commun à beaucoup d'entraîneurs portugais, c'est qu'il y a un côté un petit peu universitaire du football. Contrairement aux entraîneurs français qui sont souvent d'anciens joueurs qui se lancent dans la carrière d'entraîneur dans la foulée, les entraîneurs portugais sont le plus souvent des joueurs à la carrière relativement modeste, qui, assez jeunes, se reconvertissent dans le coaching et vont étudier dans des écoles, dans des universités, pour vraiment aller au fond des choses dans le football, essayer d'en comprendre tous les aspects. Et on le voit chez Villas-Boas, il a à la fois un côté fin tacticien, qui se voit pas toujours ces derniers temps, mais tout de même, je trouve qu'il a au moins redonné une identité assez claire sur la longue durée à l'OM après les errements de Rudy Garcia. Au moins, on comprend à peu près les principes de jeu de cette équipe.
C'est sur... Bay est pas d'accord avec
je parle sur le depuis le début de son mandat.
Non, mais il a raison. Il
je
a
parle
fait
pas
un choix,
des 6 dernières semaines, mais on comprend bien qu'ils jouent, ils sont derrière et qu'ils défendent. Et après, il est aussi très bon dans la communication, parce qu'il y a eu toute une approche extra-sportive du football chez ces techniciens portugais. Ce sont souvent des gens assez charmeurs, assez qui arrivent un peu à embobiner parfois les journalistes. Et on le voit avec aussi Conceição, qui à Nantes avait vraiment en peu de temps marqué ce club.
José Mourinho est quand même un contre-exemple à mon sens, mais pour ce qui est de séduire les journalistes. Bah, David Lortolari, Villas-Boas.
J'ai souvenir, ça va faire lien avec ce que disait Eric Chourin peut-être aussi, j'ai souvenir d'une visite à Porto au moment où il arrivait justement, et de mémoire il y avait des grandes affiches avec son portrait dans l'aéroport, même en arrivant à Porto, de grandes affiches, parce que il portait derrière Mourinho qui l'avait précédé, il portait des attentes incroyables avec Porto. Alors après, comme le disait Nabil, ça a pas forcément décollé aussi fort que peut-être on l'imaginait au départ.
Oui, il est parti à Chelsea, Tottenham et
Russie, le problème, c'est qu'à Chelsea, il est plus jeune que les joueurs qui l'entraînaient. Était plus
et là,
jeune
il faut
que
un gros charisme.
Donc bon, c'était un peu compliqué aussi en termes de légitimité.
Oui.
C'est pas forcément le seul à avoir été plus jeune que ces joueurs, mais ça nécessite des idées, ça nécessite un charisme, ça nécessite aussi des résultats. Et peut-être que si on en vient au contexte du match de ce soir, c'est peut-être un point commun entre les deux, c'est que au niveau des résultats, on peut être gentil un petit peu entre guillemets, comme l'a fait Nabil, avec un OM qui est correct. Mais c'est pas non plus le match phare du soir, à mon avis.
Juste avant qu'on parle de l'OM, terminons avec le FC Porto et avec Eric Chorin. Eric Chorin, cette équipe de Porto, elle est championne sortante du Portugal, donc avec cet entraîneur Conceição. Et malgré tout, en ce moment, ils sont au bord de la crise.
Oui, c'est la crise, alors qu'ils ont signé le doublé l'an passé, dans un contexte, il est vrai, particulier, mais ils ont déjà 2 défaites et un match nul en 6 matchs de championnat portugais cette saison, et au Portugal, ça passe pas, ça, 2 défaites et 1 nul en 6 journées, ça n'est jamais arrivé aux portistes depuis 25 ans. Donc c'est un peu difficile à avaler. Alors après, en termes d'écart, ils ne sont qu'à 5 points du Sporting, nos leaders, c'est la même chose pour Marseille, finalement, à 5 points du Paris Saint-Germain, avec un match en moins, donc ils peuvent sans doute encore s'en sortir, mais il y a de grosses difficultés après la défaite vendredi à Passos de Ferreira. C'est mal passé auprès des supporters, et puis il y a aussi le fait qu'il y a eu un mercato plutôt raté. Il y a eu des départs importants, Danilo Pereira, Alex Telles, Tiquinho Soares, ils n'ont pas été remplacés visiblement pour les supporters portugais et sur le terrain, et du coup on est plutôt inquiet pour la suite, avec des incertitudes aussi sur la présence ce soir de Pepe, le capitaine de l'équipe, touché à un pied, et un contexte lié au coronavirus qui pose aussi des difficultés pour arriver à avoir tout le monde au sein de l'effectif pour arriver à gérer cette équipe.
Et oui, comme à beaucoup d'équipes malheureusement. Et d'ailleurs, vous parlez de Pep, c'est vrai qu'il y a un problème en défense. Moi, j'avais trouvé cette statistique, 12 buts en 8 matchs encaissés par le FC Porto. C'est le pire bilan défensif, alors on est dans un petit pays, mais depuis 1959, pour cette équipe portugaise.
Vous avez raison. Vous avez raison, il y a certainement un problème d'équilibre. Après, Pep, aujourd'hui, c'est un peu comme Dante à Nice, même s'il s'est blessé. Est-ce que vous pouvez jouer haut avec lui, même si je pense qu'il a encore un peu de vitesse? On parle de Malan Sarr éventuellement pour le remplacer ce soir, le joueur passé par Nice que connaît très bien Patrick. Mais après, elle a quand même des arguments, cette équipe. Bon, on va parler évidemment de Maréga, mais il y a un joueur, moi, là, qui me tape à l'œil. C'est Corona. Excusez-moi.
Corona.
Ouais, c'est un virus.
C'est
un virus dans les défenses adverses.
Moi, c'est Diaz qui
j'ai pas voulu l'enlever.
Je l'ai vu avec le Mexique, Annie, contre l'Algérie. Je peux vous annoncer que c'est un joueur extrêmement doué. Pour les connaisseurs du football sud-américain, je suis sûr qu'il y en a en Afrique, il me fait penser dans le style à un joueur qui jouait au Chili qui s'appelait Humberto Suazo, des joueurs en rupture, assez déroutants, assez imprévisibles. Mais je trouve que cette équipe de Porto, elle a quand même des arguments qui peuvent mettre en difficulté ce soir la défense marseillaise.
Patrick Julien.
C'est un club qui avait l'habitude de bien acheter et de bien vendre, et qui est confronté maintenant à l'obligation de vendre plus qu'il ne peut acheter parce qu'il est en grande difficulté financière. Et donc cet été, il s'est délesté de la plupart de ses joueurs.
Il a
vraiment
réussi, lui, parce que beaucoup de clubs veulent le faire ces temps-ci à cause de la crise. Il n'y arrive même pas.
On a vu Danilo arriver au PSG, on a vu Telles partir, on a vu le jeune Fabio Silva vendu à Wolverhampton, un club qui est plus ou moins dans la main de Jorge Mendes, le célèbre agent portugais, pour 40 millions d'euros, ce qui a un peu sauvé la mise du club. Mais il reste Nabil Ladi pour Corona, je partage. Mais moi, j'aime beaucoup l'autre ailier, l'ailier gauche, Corona étant à droite. C'est Luis Diaz, qui est aussi un petit joueur, comme on disait dans les anciens albums Panini que je collectionnais quand j'étais jeune. C'est un joueur insinuant, c'est-à-dire un joueur qui arrive à se glisser entre les lignes et semer la panique dans les défenses. Et bon dribbleur également. On l'a déjà vu lors de la première journée de la Ligue des Champions.
David Lortolari.
Non, si j'ai compris la petite musique, l'atmosphère vue du Portugal, on se fait moins d'illusions peut-être sur ce FC Porto d'aujourd'hui qu'on a pu se faire par le passé dans des sans remonter aux années 80 où ils remportent la coupe. Ouais. Mais il y a moins d'illusions. Néanmoins, à Nice, c'est tout de suite quand même aussitôt un match qui va compter lourd puisque on va jouer la deuxième place du groupe.
Exactement.
Hein, avec Olympiakos qui a pris un peu d'avance sur l'OM, mais Porto, lui, avait battu Olympiakos, si je me souviens bien. Mm-hmm. Donc c'est un match très important ce soir. Porto n'aura pas son public, n'aura peut-être pas la pression aussi d'un public qui pourrait être un peu hostile à domicile. Compliqué comme match.
C'est toujours à double tranchant, le public. Si tout se passe bien, il va se pousser l'équipe. Si ça se passe mal, il peut se retourner contre elle.
Ouais, du coup, ça devient neutre.
Là, ça annule ce facteur.
Alors, quelles sont les chances de l'OM qui, le sait, est acculé? On va écouter Éric Chorin, qui est à Porto, écouter Dimitri Payet hier. Et voilà ce qu'il nous dit, Dimitri Payet, sur les prouesses ou les prestations de cette équipe de l'OM.
Au moins le premier match en Grèce, on aurait pu avoir meilleur résultat. Après, il faut pas oublier non plus que ça fait 6 ans qu'on n'a pas joué cette compétition et très peu de joueurs dans cet effectif ont joué cette compétition. C'est un début pour beaucoup de joueurs. Donc malheureusement, voilà, c'est aussi un fait. Il faut que l'on apprenne, il faut qu'on en apprenne vite, mais c'est quelque chose qu'on ne peut pas nier. On est conscient du fait qu'il faut faire plus, qu'il faut faire beaucoup plus, parce que c'est une compétition qui est exigeante et qui demande vraiment qu'on soit tous à notre meilleur niveau. Après, forcément, on a peu de marge de manœuvre. C'est la dernière chance, on va dire, de pouvoir penser à une qualification.
Nabil Djellit, penser à une qualification, ils sont vraiment acculés, les Marseillais.
Oui, c'est ce soir ou jamais.
Oui.
Sinon, c'est le spectre, excusez-moi, de l'élimination qui pointe le bout du nez pour l'Olympique de Marseille.
On a des statistiques qui disent que pour ce qui est des... Alors, on met à part le PSG et Lyon. Ouais. Mais pour les équipes françaises qui jouent en Ligue des Champions, les matchs européens, Monaco, Lille, Rennes et l'OM, 0 victoire en 22 matchs européens depuis 2017.
Oui, ça en dit long sur le niveau terrible, quand même, de notre championnat. Et puis ça nous permet aussi de pondérer, de modérer peut-être le dernier Final 8 où on a vu quand même deux équipes françaises en demi-finale, même si elles n'ont pas volé leur place et méritaient leur parcours. Mais ça vous...
C'est-à-dire qu'il faut, une en finale.
Voilà, il faut s'inscrire sur un cycle, c'est-à-dire enchaîner des demi-finales 3 ou 4 saisons de suite, ce qu'on nous on ne fait pas.
Mais qu'est-ce qui manque à Marseille? Le mental?
Non, il manque. Le mental, c'est justement un de leurs points forts, c'est l'Olympique de l'état d'esprit. C'est-à-dire
mais pourtant, on les a vus complètement amorphes et abattus face à Manchester City.
Parce qu'à un moment, vous êtes rattrapé par la. Ah bon, face à City, de toute façon, il n'y a pas match, mais à un moment, vous êtes rattrapé par la réalité. Et la réalité, c'est le rapport de force,
mais
le
Lyon
niveau de jeu.
Mais match contre Manchester City.
Oui, mais c'est pas la
Lyon
même qualité. C'est-à-dire que Depay et Aouar, ils peuvent jouer à Manchester City.
En regardant dans les yeux.
Là, il y a qui peut jouer à Manchester City?
Par exemple, il ne peut pas.
Sanson, il n'y a aucun club de milieu de tableau anglais qui est venu le chercher. Après, là, moi où j'attends l'OM, c'est peut-être pas forcément sur le résultat, mais c'est sur le contenu. T'as pas le droit de sortir comme ça. T'as pas le droit de pas jouer quand t'es l'OM.
Surtout,
et ça, c'est gênant. Ça, c'est gênant en termes d'image. Parce que si ce soir, vous enchaînez encore une troisième défaite en étant amorphe, franchement, la qualification, elle servait à rien, en fait.
C'est surtout par rapport au match, au déplacement au Pirée contre l'Olympiakos, que l'OM a été catastrophique.
Oui, c'est ce qu'il dit, d'ailleurs. C'est ce qu'il dit, Payet.
Vouloir à tout prix ne pas perdre, alors que peut-être, en essayant de jouer au foot, on peut peut-être gagner contre l'Olympiakos, déjà. À force de pas vouloir pas perdre, on finit par perdre. Ensuite, contre City, alors moi, j'en veux pas tellement à Villas-Boas qui a tenté un coup tactique en pensant à 5 derrière, en bétonnant et en espérant refaire ce qu'avait fait l'Olympique Lyonnais par deux fois.
C'était
contre cette équipe.
C'était 3-0, donc.
Sauf que Marseille n'a pas les flèches offensives et le talent de l'OL à la récupération pour faire ça, et on a vu la différence de niveau qui nous a sauté aux yeux.
Justement, David Lortolari, ce trio offensif devenu inoffensif, hein. Payet et Thauvin, une stat de nos confrères de l'équipe, un seul but en 27 matchs européens, et ce fameux but, c'était Thauvin
il y a
à Naples.
7 ans.
Voilà.
Oui, en 2013. Si on ajoute à ces deux, alors ça voudrait dire donc du point de vue de ces deux-là, qui sont ceux sur lesquels les espoirs offensifs reposent essentiellement, qu'on change, qu'on passe de 0 à 1. Donc il y a un changement complet ce soir, et qu'il soit inspiré, qu'il soit porté par quelque chose. Et si on ajoute à ces deux-là, Nabil et Patrick ont mentionné Sanson qui est derrière eux, si on ajoute à ces deux-là Benedetto, qui n'a pas pu faire encore ses preuves, ça veut dire qu'il va falloir quand même
plus qu'une mois de mars.
Il y a du monde ce soir qui soit inspiré. Alors bon, moi je veux bien avoir de l'espoir, parce que des joueurs qui sont inspirés, qui réalisent un doublé venu de nulle part, on en a vu à n'importe quel niveau, mais franchement, il va falloir que au moins l'un, deux ou trois de ces acteurs-là changent complètement de costume.
Non, mais on a le sentiment qu'ils ne sont pas invités à ce niveau-là, ni tout simplement. C'est dur, hein, ce que je dis. Hein, mais...
C'est dur parce qu'en plus, hein, on le sait, ils fêtaient ce retour en Ligue des Champions depuis longtemps. Éric Chorin, vous allez peut-être voir un match historique alors ce soir de la part de l'OM, qui va renverser la tendance.
Je préférerais voir un match où il marque enfin un but en Ligue des Champions, ça serait pas mal, plutôt que leur 12e défaite de suite, effectivement, pour qu'ils égalent le record d'Anderlecht en la matière, hein, puisque ça fait 11 matchs qu'ils perdent en Ligue des Champions, même si les derniers matchs, ça remonte à assez longtemps. Voir les Marseillais marquer ce soir, c'est ce qui leur manque, hein, dans cette compétition. Deux matchs, effectivement, deux défaites, mais surtout une absence de but. Et s'ils ne marquent pas lors de ce match et puis lors du suivant, ils n'auront aucune chance de rester dans la course, évidemment, pour la suite de la compétition. Hein.
Ouais. Et alors, ils seraient à zéro point comme la fameuse épopée de 2013.
Ce serait à jamais les premiers, là, pour le coup, ou à jamais les seuls. Quoi, mais on ne leur souhaite pas.
En tout cas, Éric Chorin, on vous retrouvera sur l'antenne tout à l'heure. S'il y a un but de Marseille, on vous entendra à gorge déployée, j'imagine.
Dans le silence du stade du Dragon, on devrait m'entendre, du coup.
Exactement. Ouais. Ça sera sur RFI en direct dans ce multiplex mené par Hugo Moissonnier et Cédric de Oliveira. Et Patrick Juillard, vous serez là encore.
Hein. Avec un grand plaisir.
Vous jouez les prolongations. Vous aussi. Merci beaucoup, Éric Chorin. Muito obrigada. À tout à l'heure.
De nada, alors.
De nada, vous avez raison. Allez, nous, on continue.
Bonjour, Radio Foot. Je vous suis depuis N'Djamena, au Tchad. Je reprends de temps, tout va, Valérie. Oh, Rémi Ngono, Alejandro Valente, Annie Gasny. Vous êtes meilleurs. Les trios qui ont créé Radio Foot. Oh, votre émission est la meilleure des émissions. Je vous aime.
Bonjour, chers tous. Otaru qui est à Burkina Faso. Je joins ma voix à des milliers d'autres auditeurs ou auditrices pour vous souhaiter un très bon anniversaire. 10 ans, ça s'est fait. J'ai donné un carton vert à toute l'équipe de Radio Foot. Que Dieu vous bénisse. Encore joyeux anniversaire. Je vous le dédie, c'est votre jour. C'est le jour d'une émission, de la plus belle émission de Radio France Internationale. C'est votre jour, il faut en profiter. Une décennie, ça se fête. Que Dieu bénisse tout le monde. Joyeux anniversaire.
Radio Foot International, à 10 ans, sur RFI.
Bonjour, madame Annie Gasnier. Ici, c'est monsieur James Ketevi, j'appelle du Bénin, dans la ville de Ouidah. Je vous souhaite joyeux anniversaire à Radio Foot International. Moi, je suis à Ouida et j'avais l'habitude de suivre l'émission ici. Mais récemment, je suis admis à un concours où j'ai été affecté à Tofo. C'est une zone dans laquelle je n'arrive pas du tout à capter les filles. Je suis admis pour le concours des instituteurs. Donc, je n'arrive pas du tout à capter les filles. Et pour pouvoir à capter les filles, je suis obligé de monter sur des échelles du village, là-haut, on va fêter. Pour pouvoir trouver un tout petit peu, ça frotte. Et j'essaie au moins d'écouter les commentaires des uns des autres. Donc à chaque fois que je monte sur l'échelle, les élèves me regardent, me disent « Mais qu'est-ce que le professeur et le maître est en train de faire en haut là? Qu'est-ce qu'il cherche en haut là ?» Tous mes collègues me disent « Mais moi, il y a une mission que je ne rate jamais, et c'est Radio Foot International. C'est pour ça que vous me voyez souvent monter sur l'échelle. » D'accord, joyeux anniversaire et à la prochaine.
Ça, c'est la passion
ah ouais, non, hein, c'est
du
plus
football.
Beau le plus bel des hommages.
Et alors, on avait chat perché, maintenant on a un instituteur béninois perché, n'est-ce pas, sur une échelle pour écouter, orienter son poste. Merci beaucoup, cher auditeur. Et puis, merci aussi à ces auditrices burkinabées hein, qui nous suivent et qui nous laissent des messages. Vous voyez, on vous écoute et on est tous émus. Et je rajoute, allez, un message manuscrit. Il nous vient d'Abidjan, de Salfon Kone, qui dit « Joyeux anniversaire à Radio Foot. Ça fait 10 ans que je vous écoute, mais jamais un jour mon message a été pris. » Ben voilà, aujourd'hui, il a été pris. Allez, autre situation délicate pour un club. Mais là, difficile de croire que ce soit vraiment très grave. Il a des ressources, ce club. C'est évidemment la Casablanca. Avec un seul point glané lors des 2 premiers matchs, le Real Madrid est dernier de sa poule. Mieux que l'OM quand même, parce qu'il y a eu un match nul en Allemagne. Mais ce soir, l'équipe reçoit sur sa pelouse l'Inter Milan d'Antonio Conte. Et le défi est simple. Les Merengues doivent gagner. En tout cas, c'est ce que nous dit Zidane.
Ce sera un match compliqué face à une bonne équipe, un adversaire très physique mais qui joue bien au football. Donc encore un match difficile pour nous. Plus encore, c'est une finale. Nous allons jouer une vraie finale ce mardi. Mais bon, c'est vrai que chaque jour nous devons jouer une finale parce que nous voulons à chaque fois prouver notre valeur et que nous en voulons toujours plus.
En vouloir toujours plus. David Lortolari, le Real qui joue une finale de poule, c'est pas si banal. Mais s'il n'engrange pas 4 points, c'est vrai que ça va être un peu compliqué. Heureusement, Zidane, il a Ramos ce soir sur le terrain.
Ouais, c'est incroyable cette poule-là de la Ligue des Champions avec le Real qui perd le premier match contre le Shakhtar Donetsk, qui était décimé. Il y avait 6, 7 ou 8 joueurs titulaires potentiels du club ukrainien, qui joue d'ailleurs pas chez lui, par ailleurs, qui joue pas à Donetsk, qui était absent.
Ça fait longtemps qu'il joue plus à Donetsk. Oui. Il est un peu itinérant même.
Actuellement, c'est à Kiev, si je me souviens bien.
Oui.
Et le deuxième match, que j'ai évidemment regardé avec soin, puisqu'il concernait aussi le Borussia Mönchengladbach, alors là, c'était très, très étonnant, très paradoxal, très bizarre. Un Real qui fait le Real, qui est assez royal, qui maîtrise l'affaire, qui a plein d'occasions, qui ne marque pas, qui prend 2 buts, qui est
c'est
mené 2-0.
C'est à cause de Vinicius, je ne sais pas si tu es au courant.
Oui, entre autres, oui, certes, peut-être. Qui prend 2 buts, qui est mené 2-0, qui est au fond du trou dans ce groupe, et qui revient à la 93 ou 94e minute avec la hargne de Benzema et quelques autres ingrédients, et qui finalement reste en vie dans un groupe comme ça. Peut-être que ça veut dire que, en étant tombé si bas, le Real va rebondir.
Ils rebondissent en championnat déjà, hein. Parce qu'ils sont deuxième et ils ont 8 points d'avance sur le Barça.
Mais là, c'est encore une fois, on disait que c'est ce soir ou jamais pour l'OM tout à l'heure. Nabil, bien sûr, avait raison sur ce point. Mais pour le Real, il y a l'Inter en face de Conte. Là aussi, ça va être un match qui va compter beaucoup.
Ah, bien joué. Par contre, si tu peux terminer là, parce que le temps est compté. Là.
Enchaîne, Nabil, enchaîne.
Non, c'est de l'humour.
Non, mais c'est un point en 2 matchs pour le Real, c'est quelque chose qui n'existe pas, qui n'est pas concevable. Donc maintenant, il faut réagir. Alors, vont-ils être capables de le faire? Moi, je suis resté très embrouillé par le match contre le Borussia. Il y a eu du bon Real, il y a eu un Real aussi qui a été mené 2-0 sans qu'on comprenne vraiment pourquoi. Est-ce une question de confiance? Est-ce une question physique? Zidane doit le savoir. Maintenant, il faut nous montrer autre chose.
Tout le monde n'était pas sur la pelouse au départ quand même.
C'est vrai.
Comme titulaire, il avait un peu tenté une équipe B. Nabil, vous faisiez allusion à Vinicius. Alors, il y a eu une petite dispute, on va dire, entre Benzema et Vinicius. Zidane a tout de suite dit, les journalistes, c'est normal dans un vestiaire. Ça laisse des parasites, ça.
Ça peut laisser éventuellement des traces. Ça dépend des acteurs concernés. Si c'est Messi et Griezmann, ça peut vous foutre le bordel dans un vestiaire. Là, c'est un jeune joueur, Vinicius, qui a une marge de progression, qui est assez intelligent peut-être aussi pour se remettre en question. Après, Benzema, c'est un leader offensif. Je rappelle, moi, je suis gêné par cette histoire, Annie, parce qu'en fait, d'un côté, on dit que les joueurs mettent la main devant leur bouche, ils veulent pas communiquer et tout. Et quelque part, là, on a violé, entre guillemets, leur intimité. C'est-à-dire que je trouve que ça n'aurait pas dû sortir. Benzema l'a exprimé d'une manière extrêmement maladroite, mais en privé. Mm-hmm. S'il avait dit, par exemple, c'est hypocrite, c'est-à-dire qu'on sait tous que c'est des choses qui peuvent arriver. Et voilà, c'est dans son écosystème, c'est son langage. Dans le monde aujourd'hui, c'est des choses certains ne peuvent pas comprendre, c'est pas audible. Mais s'il avait dit, par exemple, à Ferland Mendy, bon, il a pas l'air très en forme, je vais décrocher, joue plus sur moi, ça voulait dire exactement la même chose, en fait, si vous voulez. Sauf que là, c'est Vinicius, parce que
c'est pour ça qu'il est pas
bon. Mais il y a d'autres images où on voit Benzema.
De toute façon, Vinicius.
Pour une raison simple.
Parce qu'il y a Hazard.
Parce qu'Hazard va revenir. Mm-hmm. Et le problème, Vinicius va être relégué sur aux oubliettes, puisqu'il ne jouera plus.
Je pense qu'il
ne
sera pas relégué
mais
aux oubliettes.
Non, mais il jouera des matchs secondaires.
C'est pas le problème du Real en ce moment, Vinicius. Une mésentente de vestiaire.
Non, mais si c'était Benzema évidemment. Et Ronaldo, par exemple.
Mais
à
c'est, pas, c'est un épiphénomène, c'est tout.
Mais après, je pense que Zidane aussi, c'est quelqu'un qui sait cimenter les groupes. Il est capable de prendre en tête à tête Vinicius et lui-même lui expliquer. Les choses. Benzema, c'est pas le sale type que tout le monde nous vend. Si ça fait 10 ans qu'il est dans le vestiaire du Real et qu'il est apprécié par les tauliers comme Ramos et tout, il est aussi capable, ça se trouve, de l'avoir attrapé dans un coin et de s'être expliqué tranquillement. Je pense qu'il faut pas donner plus d'importance à ce micro-incident, à mon sens. Après, le Real, c'est une équipe de champions avec un savoir-faire de champion. Des matchs comme ça, à pression, ils en ont joué je sais pas combien.
Ah oui.
Ce soir, c'est une configuration qu'ils connaissent. Mais ce soir, il y a aussi une vraie équipe en face avec l'Inter.
Il y a des absents aussi au Real.
Et il y a un joueur qui peut-être voudra prendre sa revanche ce soir, puisque Hakimi. Zidane n'a pas souhaité le conserver. C'est l'international marocain Achraf Hakimi.
Qui peut faire beaucoup de dégâts, on l'a vu aussi avec Dortmund. Hein.
Exactement.
C'est un joueur incroyable, offensivement.
Moi contre le Borussia Mönchengladbach, j'ai revu le match après coup. J'ai pas trouvé le Real mauvais dans le jeu. Le Real s'est créé des situations, voire des occasions nettes. Ça a payé en fin de match, mais moi, je trouve plutôt que c'est quand le Real est pris dans son dos sur des phases de récupération haute de l'adversaire que le vieillissement de la défense commence à se faire sentir. Et on l'a vu sur les buts qu'a marqué le Borussia. Donc là, méfiance. On sait que l'Inter utilise bien la largeur et peut aller vite. Donc le Real devra être sur ses gardes. Le Real a aussi un problème sur le côté droit puisque tous ses titulaires potentiels habituels sont blessés, dont Carvajal, et c'est Lucas Vasquez qui dépanne un petit peu. C'est pas lui qui est censé jouer sur le là. Oui, mais donc il y a des circonstances un peu atténuantes pour ce Real là.
Il faudra donc garder un œil aussi sur l'autre match du même groupe entre le Shakhtar Donetsk et Mönchengladbach. Mönchengladbach, outre le fait d'être qualifié en Ligue des Champions cette année, c'est un club alors qui nous ramène un peu aux figurines Panini des années 80.
Alan Simonsen,
c'est un grand club d'Allemagne qui vient de fêter, David Lortolari, ses 120 ans.
Ah oui,
oui. C'est une institution qui était tombée un petit peu en ruine, si j'y vais un peu fort dans ma description, dans les années 90-2000, on avait perdu l'idée d'un Mönchengladbach qui fait partie des candidats au titre, et il revient dans le circuit avec force. Par la grâce, notamment aujourd'hui, de son entraîneur, Marco Rose, qui est passé avant par Salzbourg, qui est un entraîneur assez jeune et qui tire un maximum d'un bel effectif. Les noms sont pas forcément les plus ronflants d'Europe, à Nîmes, il y a beaucoup d'internationaux, il y a des joueurs essentiels dans toutes les lignes. Et puis, ce qui est peut-être inquiétant pour les adversaires à venir, c'est que messieurs Thuram et Pléa, qui sont appelés à jouer ensemble en attaque, n'ont pas encore donné leur pleine mesure cette saison, n'ont pas joué ensemble beaucoup, voire pas du tout, presque même. Or, ces deux-là, quand ils sont ensemble et qu'ils s'entendent bien, peut-être dès ce soir, ça peut faire encore plus de dégâts que ça n'en fait actuellement.
Et
deux matchs nuls pour commencer.
Faut que tu en parles, David, quand même. Rami Bensebaïni qui a pris une autre dimension là du côté.
Depuis un doublé contre le Bayern Munich, il a vraiment pris une autre dimension.
Qui peut jouer latéral, qui peut jouer un peu avancé, qui peut jouer aussi. On l'attend peut-être pour dépanner en défense centrale. C'est l'un des joueurs importants de l'effectif actuellement, c'est vrai.
Ce soir, il y aura aussi, et on ne le perdra pas de vue, ce match dans le multiplex notamment, Atalanta-Liverpool.
Ah oui, hein, on va se régaler là.
Ah bah oui, sans doute. Et avec, évidemment, notre grand ami, on peut l'appeler
notre
comme
bienfaiteur.
Ça, de Radio Foot, Sadio Mané. Allez, on fait un petit tour par l'Europe.
Bonjour, je me nomme Abdoulaye Dia depuis Dakar, Sénégal. Et j'aimerais souhaiter un joyeux anniversaire à Radio Foot International pour ses 10 ans d'existence. Voilà, Radio Foot International, la seule émission qui me fait encore écouter la radio.
L'Euro 2020 aura-t-il bien lieu en 2021? Alors, il a été repoussé d'un an, mais le contexte à la fois sanitaire et il faut rajouter maintenant le sécuritaire, vu ce qu'il se passe non seulement en France, mais en Europe au niveau des attentats, mettra-t-il la compétition en danger? La santé des joueurs nous inquiète plus. Nous, on en parle dans Radio Foot avec toutes ces compétitions. On se demande s'ils ne seront pas cramés, comme on dit, en arrivant à l'Euro. Mais en tout cas, le contexte est pesant, déjà peut-être sans public. Et en plus, cette compétition devait se dérouler dans 12 villes européennes. Patrick Juillard, hier, il y avait une indiscrétion qui est devenue donc publique chez nos confrères du Parisien, comme quoi 7 euros, finalement, eh bien, peut-être qu'il n'aurait pas lieu, entre guillemets, mais surtout, s'il avait lieu, pour l'instant, il pourrait, pas lieu dans les 12 villes, oui, mais il pourrait être rapatrié, du coup, sur un seul pays. Et comme il y a 24 équipes, il faudrait un pays qui a beaucoup de stades, et le plus logique, ça serait peut-être
la Guinée équatoriale, non?
Non, ça commence à dater.
Mais oui, la Russie, parce qu'on a gardé, enfin, les dirigeants de l'UEFA ont gardé un bon souvenir de la Coupe du Monde qui avait eu lieu dans ce pays-là. Alors, il y a des longs déplacements, mais on peut mettre beaucoup de matchs à Moscou ou aux alentours.
Il y a des stades presque tout neufs.
Il y a des stades
neufs, quoi,
immenses.
Ils étaient faits pour il y a 2 ans.
Il n'y a pas effectivement beaucoup d'autres solutions de repli. Est-ce qu'il sera supprimé définitivement puisqu'il a déjà été repoussé d'un an cet été? Je ne pense pas puisque le signal a été envoyé. Les barrages de qualification ont eu lieu au mois d'octobre. Mmh. Il y a des sommes importantes en jeu. Il y a des droits télé importants en jeu.
Mais il n'y aura pas de billetterie, peut-être.
Il n'y aura pas de billetterie.
Il faudra voir l'évolution de la situation.
Mais peut-être
qu'il y aura des jauges à 20, 30, 40%. Peut-être comme ça va jouer
à une
période estivale, peut-être que le virus sera plutôt en mode défensif. On lui souhaite. Enfin, moi, je lui souhaite, en tout cas, s'il m'entend.
Non, mais on ne sait pas encore. Mais je ne vois pas comment l'euro pourrait être annulé purement et simplement.
Moi, j'y crois pas. Ils ont joué la Ligue des Champions. C'est-à-dire qu'on a un an de plus d'expérience pour savoir comment gérer ce genre d'événements. La Russie, c'est un grand pays. C'est un pays aussi qui est capable, disons-le, d'assurer au niveau sécuritaire. Ils l'ont fait lors de la dernière Coupe du Monde. C'est un État-continent, comme l'a dit Patrick à juste titre. Et je pense que c'est la solution idoine. Il faut absolument oublier cette histoire de 12 pays, même de 3 ou 4 pays. La Russie a organisé la Coupe du Monde d'une manière très positive. Je vois pas pourquoi on leur laisserait pas l'euro.
David Lortolari.
Je suis un peu gêné, moi, par l'idée de se déplacer dans tous les sens. Effectivement, ça tombe au mauvais moment.
Déjà, c'était pas une bonne idée. Déjà
on trouvait ça compliqué.
C'était aberrant. Oui.
Alors, déjà, on comprenait. Bon.
Après, en Russie, on se déplacerait aussi beaucoup, malgré tout. Mais ce qui me gêne aussi, par ailleurs, c'est que, alors, bien sûr, les organisations continentales et internationales dans le football ont montré que l'image leur importait peu, parfois. Mais le fait d'organiser une telle compétition en Russie, actuellement, officiellement en Russie, tout va bien. Or, dans la réalité, ça va pas si bien que ça sur le plan sanitaire, ça va pas si bien que ça sur le plan sécuritaire non plus. Je suis pas, à titre personnel et à titre dans la dimension humaine, très enthousiaste à l'idée de disputer une compétition dans ce pays-là, dans le contexte actuel.
Ça a été démenti pour l'instant par quelqu'un, un contact à l'UEFA dit non, mais pas du tout, on n'y pense pas.
On reste sur les 12 ?
Mais oui, non.
Ça, c'est pas sérieux, en revanche.
Ouais. Ça peut pas être...
Mais ça peut
sera
pas
officialisé
sortir, voilà,
à un moment
exactement.
Ou à un autre. Ils vont
ça
pas confirmer
pas
ou infirmer maintenant.
C'est pour ça que je parlais de...
Moi, il y a autre chose qui, un peu plus philosophiquement, m'inquiète, c'est qu'on s'habitue trop à voir du foot sans public. Et ça, c'est quand même très néfaste très long, si ça dure longtemps.
Pour l'instant, c'est comme ça.
Ouais. Et on est obligé de respecter cela. Allez, on termine par nos auditeurs et quelques témoignages autour de ces 10 ans.
Bonsoir à toute l'équipe de Radio Foot International. Je me nomme Nikema Fabrice depuis le pays des hommes inter Burkina Faso. Je voudrais souhaiter un joyeux anniversaire à Radio Foot International.
Coucou, moi c'est Ben Jordan de Brazzaville. Très ravi de savoir que ça fait déjà 10 ans depuis qu'on écoute Radio Foot. J'ai suivi la première émission en 2010. Très très content de l'émission. Je l'écoute tout le temps, au boulot, à la maison quand je suis déjà rentré, en taxi quand... en quittant le boulot pour la maison. Vraiment très ravi de l'émission et bonne continuité.
Joyeux anniversaire.
Radio Foot International.
Joyeux anniversaire.
Souffle ses 10 bougies.
Joyeux anniversaire Radio Foot.
Sur RFI.
Joyeux anniversaire. J'en suis fan de Radio Foot International sur la RFI.
Bonjour Radio Foot, pour moi c'est Mahamal Lawal depuis Niamey, Niger. Bonjour à toute l'équipe, joyeux anniversaire à tous. En premier, vous Annie Gassini, la dame de fer, et à toute l'équipe également. El Khefe, Marc Libra, Patrick, Dominique, David, Salim, Bruno, Naïm, Habib, Xavier, Rémi, Nabil, Eric, Hervé, Philippe Lucet, et sans oublier les maestros David Frenzel. Merci pour ces 10 ans magnifiques, mémorables et inoubliables. 10 ans de fou rire, 10 ans de citations, 10 ans de conflits entre Xavier, Barré et Rémi. Même si c'est toujours Xavier Barré qui a raison. Merci aussi à Rémi qui assaisonne les débats. Merci à tous. J'ai grandi avec vous. Voilà, aujourd'hui, 5 ans que je vous écoute. Merci. Vous êtes une famille.
Il y en a qui connaissent la feuille de compo par cœur.
Ah, hein. Impressionnant, ce monsieur. Il est d'où déjà ?
Niamey,
au Niger.
Un grand
bonjour et merci beaucoup.
Et il y a un auditeur qui nous a écrit justement de Niamey qui s'appelle Abdoul Waponé et qui nous dit: grand auditeur, mon message n'a jamais été évoqué. Voilà, ça l'est. Malgré tout ça, je continue à vous saluer. Et il y a un proverbe africain qui dit: le soleil qui brille n'ignore jamais un village.
C'est beau,
hein. C'est beau, on l'apprendra à Rémi celui-là. Et puis un autre qui nous dit: depuis 2011, alors c'est Thierry Kamba, camerounais, qui vit à Douala et qui dit: j'ai connu Radio Foot si vous aviez produit 1000 émissions, moi j'en ai écouté 999. Je me rappelle au lycée, il était interdit d'avoir des téléphones. Moi je partais avec le mien éteint au fond du sac car je devais suivre l'émission. Au retour, c'était mon compagnon pendant 2 kilomètres à pied quand je rentrais du lycée de Banjoum. Et pour un autre témoignage qu'on a eu, on va écouter un témoin et puis dans la foulée, le grand entraîneur, sélectionneur, Claude Leroy.
Radio Foot International, 10 ans après et on est toujours ensemble. Moi, c'est Théophile Canton-Kessely. Je suis un étudiant tchadien résident au Cameroun. Je te témoigne mes voeux depuis la ville de Ngaoundéré. Je fais partie de ceux qui ont grandi avec toi ces 10 dernières années. Durant ces 10 ans, tu m'as été une école de foot, une source d'information sportive, une bibliothèque. Tu as fait de moi l'un des plus informés du foot de mon quartier, pouvant même discuter avec mes amis et grands. Bref, tu m'as encore donné plus l'amour du foot que mon sport actuel qui est le basketball. Heureux en ce jour avec toi et je te souhaite encore joyeux anniversaire et une longue vie à mon émission. Merci encore à Maman Annie et toute son équipe. Soyez bénis.
La radio des voix, Claude Villers, Jacques Chancel, Radioscopie, le Pop Club de José Arthur et puis Radio Foot International, moi je dirais plutôt référence à un football intelligent. Annie Gasny a su depuis 10 ans, bel anniversaire à toi Annie, à toute ton équipe. Fédérer des gens, créer à partir d'un kaléidoscope de personnalité une émission de qualité qui me rappelle un petit peu ces mots d'Albert Camus quand il disait que ce que je sais de la morale et des hommes, c'est au football que je le dois. Eh bien, vous pouvez faire votre toutes ces affirmations de notre prix Nobel de littérature. 10 dans le sport, à l'école, c'est la note d'excellence et 10 ans à pratiquer comme auditeur votre émission, ça nous rend tous les jours un petit peu meilleurs, un petit peu plus connaisseurs, un petit peu plus compétents et je ne cesserai de vous défendre parce que vous êtes loin du buzz de certaines radios vulgaires où on manque de sérénité, on manque de recul par rapport à l'événement, on est toujours dans l'excitation. Donc bravo pour tout ce travail que vous faites et puis à bientôt j'espère, salut.
À bientôt Claude, bien sûr. Un petit mot.
Ah bah, que dire de plus ? Claude Leroy, la sagesse, le football intelligent dont il parle, il l'incarne aussi et il met au passage un joli tacle à certains confrères, mais on n'en dira pas plus.
C'est tout l'esprit de RFI aussi, Annie, je trouve, par ailleurs, au-delà de notre émission.
Merci beaucoup. Chers amis, d'avoir participé à cette émission anniversaire avec nous. Merci aussi à vous, chers auditeurs. Vous voyez, hein, on est tous touchés. Rendez-vous à 20h57, 19h57 en temps universel avec le multiplex de RFI. Les garçons du service des sports et Patrick Juillard seront là. À tout à l'heure.